Avant de découvrir la pratique de l'art-thérapie au Collège de la Forêt à Trénoux, nous vous proposons de faire un petit tour de France de l'art-thérapie en milieu scolaire. Nous nous rendons tout de suite à Limoges pour interroger Hélène Soulajat. Hélène Soulajat, bonsoir. Hélène Soulajat, vous êtes enseignante du premier degré à l'éducation nationale à l'Académie de Limoges. Vous êtes intervenante à Fratapem et vous êtes titulaire du diplôme universitaire d'art-thérapeute. C'est bien ça?
C'est ça, oui.
D'accord. J'ai quelques questions à vous poser, notamment sur la thérapie en milieu scolaire. Alors, cette discipline se pratique depuis quand à l'étranger?
Alors à l'étranger, vous donner une date, c'est compliqué. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Simplement, moi je connais un dispositif qui est très connu. C'est un dispositif qui se déroule en Angleterre. C'est un programme qu'on nomme The Art Room, financé par une grande partie par la famille royale, c'est un dispositif qui se déroule depuis 13 à 16 ans par là, et qui parallèlement donne lieu à des recherches scientifiques, et donc un programme validé, vérifié, et plusieurs établissements justement bénéficient de cet appui d'art-thérapie en extérieur. Voilà, il y a des chercheurs de l'université d'Oxford qui ont publié en janvier 2020 dans le journal The Arts in Psychotherapy le résultat d'une étude qui a été pratiquée depuis 2002, voyez.
D'accord. J'ai cru lire aussi que ça se pratiquait aussi au Canada, je crois.
Oui. C'est vrai que l'art-thérapie s'est vraiment très développée au Canada et l'art-thérapie s'est développée dans plusieurs, notamment dans le milieu scolaire, mais dans d'autres, très bien dans d'autres milieux, oui.
D'accord. Et alors en France, depuis quand on parle de l'art-thérapie en milieu scolaire?
Alors, en France, c'est pareil, c'est difficile de répondre. Maintenant, je sais que il y a de multiples expériences d'art-thérapie en milieu scolaire, mais qui sont essentiellement liées à des périodes de stage et très peu répandues en milieu scolaire ordinaire. Voilà, c'est souvent dans des établissements spécialisés qu'ont lieu ces stages d'art-thérapie, des établissements médicalisés ou scolaires.
D'accord.
Donc, pour l'instant, moi, je connais que le projet de Karen Toutain au collège du Trénoux qui a vraiment duré déjà plus d'un an, c'est exceptionnel.
D'accord, ok. Oui, alors en fait, on peut dire qu'en France, c'est encore à l'état de projet d'essai, quoi.
Oui, voilà. Alors, c'est vrai qu'en France, il faut toujours un petit peu plus de temps. Un peu plus de temps aussi pour que ça s'ancre dans les mentalités, pour que ce soit accepté par le système éducatif. Ça a du mal à s'implanter pour plusieurs raisons, sûrement peut-être par manque de disponibilité. Les expériences prennent du temps à s'implanter, il faut du temps, de l'argent. Les financements sont rares, ou alors quand il y a du financement, ça se fait sur 2-3 ans, et puis après le projet malheureusement tombe à l'eau parce que les financements après c'est ce qui est un peu le nerf de la guerre. Donc c'est vrai qu'il faut on a besoin aussi d'avoir un recul, avoir des chiffres, que ce soit validé, vérifié, etc. Donc tout ça prend énormément de temps.
D'accord. Alors pour qui, alors la question, pour qui l'art-thérapie en milieu scolaire, pour qui, à qui ça s'adresse?
Alors en milieu scolaire, bien sûr, donc ça s'adresse alors tout d'abord directement aux enfants, aux enfants et aux adolescents qui présentent des pénalités existentielles qui ont été identifiées et dont les souffrances constituent un handicap. Ça touche les ados, porteurs de, par exemple, de troubles du comportement, et qui ont des relations interpersonnelles, par exemple, inadaptées, avec une perte de motivation pour les apprentissages. Donc, on intervient. Ça peut être une intervention en réadaptatif ou en prévention, justement, pour éviter le décrochage scolaire. Il peut y avoir des interventions au collège, au lycée et bien sûr même en primaire. Voilà.
D'accord. Mais alors, à quel endroit se pratique l'art thérapie au milieu scolaire ?
Il y a deux possibilités. En milieu scolaire, il peut y avoir donc des expériences qui se déroulent intramuros, mais elles sont très rares et elles se font essentiellement au courant d'un stage ou avec une convention particulière. Et elles peuvent parce que donc intramuros, l'école, l'établissement est considéré comme un lieu d'enseignement, mais pas un lieu de soins ni de réadaptation comportementale, mais justement on essaye justement de faire évoluer les mentalités hein, pour que ça évolue un petit peu dans le bon sens. Et puis il peut y avoir aussi des interventions donc en dehors des murs, hein, soit en libéral, oui. des organismes médicaux, voilà. Comme des CMPP, des CESAD, etc., voilà. Des hôpitaux. Oui. Il y a souvent des enfants qui ont des séances d'art thérapie en hôpital de jour, par exemple. Mm-hmm. Et quand ça se fait à l'intérieur de l'école, ça se déroule sur le créneau de l'emploi du temps, en complément de l'emploi du temps, c'est-à-dire sur les pauses méridiennes, sur un temps extrascolaire. Voilà.
Hélène Soulagin, j'ai une question à vous poser qui n'était pas prévue au départ. Et vous, pourquoi vous êtes-vous intéressée un jour à l'art-thérapie ?
Alors, vaste question. Et en fait, j'étais arrivée à un moment de ma carrière où j'avais besoin justement de redonner un second souffle à ma carrière, d'une nouvelle motivation. C'est un métier, l'enseignement, qui nécessite de la motivation, de la passion. Et donc, j'avais besoin de renouveler un petit peu, mes compétences ou de les agrandir finalement. Et j'ai choisi l'art-thérapie parce que du coup, j'étais très orientée vers aussi les arts. Et d'autre part, parce que c'est une discipline qui est vraiment positive. C'est une discipline médicale, mais qui va s'occuper d'amplifier et de mettre en valeur les capacités ou des ressources corporelles insoupçonnées d'une personne et pas le résumer à des symptômes et qui va chercher à le consolider dans son estime de soi. Elle apporte beaucoup de choses dans le rapport au corps et c'est une discipline qui est tournée vers plaisir, l'action, l'engagement et c'est quelque chose qui est très utile dans l'enseignement à enseigner à l'enfant et à soi-même pour maintenir l'engagement et la persévérance et la motivation. Donc c'est très les deux sont très conciliables, voilà. Et du coup, moi, j'utilise l'art-thérapie et moi dans mon enseignement et à côté, puisque j'ai une double activité en tant qu'art-thérapeute où je croise et que je rencontre des enfants malheureusement qui ont des troubles, des apprentissages, des troubles du comportement. Et ça me permet justement de concilier toutes mes compétences en tant qu'enseignante et en tant qu'art-thérapeute. Voilà.
Merci beaucoup, Hélène Soulagin. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Nous allons maintenant rencontrer Isabelle Desnoux, qui exerce dans l'Académie de Lille, dans le Nord. Isabelle Desnaux, bonjour.
Bonjour.
Isabelle Desnaux, vous êtes enseignante dans un lycée professionnel sur l'Académie de Lille et vous êtes également art-thérapeute certifiée avec diplôme universitaire. Et dans le cadre de cette émission sur l'art-thérapie, j'aimerais bien vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes prête à y répondre ?
Oui, bien sûr.
D'accord. Alors, première question, comment des art-thérapeutes diplômés de la FRATAPEM ont utilisé leurs nouvelles compétences au service de l'éducation nationale ?
Alors, ce qui est intéressant dans l'art-thérapie, c'est qu'elle vient proposer dans l'éducation nationale une solution qui est vraiment novatrice. C'est-à-dire que auprès de publics qui sont parfois en souffrance, d'élèves en souffrance, aucune solution n'est proposée. Beaucoup d'interlocuteurs existent et sont là pour aider, guider, proposer des solutions à l'élève, lui demander de faire des choix, mais il n'y a personne qui est là pour aider l'élève à s'écouter de lui-même avant de pouvoir faire un choix. Et l'art-thérapie, là-dedans, apporte une solution nouvelle.
D'accord, d'accord. Alors, auprès de quel public donc l'art-thérapie agit au sein de l'éducation nationale ?
Alors, je pense qu'elle peut agir sur tous les publics, mais moi, j'ai travaillé en lycée professionnel. On a essayé de cibler un peu les élèves qui ont parfois subi leur orientation professionnelle. Ils ne l'ont pas forcément choisi. Ils l'ont un peu prise... des fois sélectionné juste parce que c'était l'établissement à côté de chez eux ou voilà, pour de mauvaises raisons, en tout cas pour des raisons qui ne sont pas dans l'écoute d'eux-mêmes. Et c'est en ça que c'est intéressant de venir épauler ces élèves en leur disant mais le choix qui a été fait, qui n'est peut-être pas le tien, mais peut-être tu vas réussir à t'y sentir bien malgré tout. Et donc venir un peu les accompagner pour écouter leurs ressentis, leur permettre du coup de se rendre disponible à la formation dans laquelle ils sont engagés, la découvrir du coup sous un autre jour et leur permettre de s'engager éventuellement ou de se réorienter si vraiment l'orientation proposée n'est pas celle qui correspond à qui ils sont.
D'accord, d'accord. Alors à quel niveau du système éducatif exercez-vous alors ?
Alors moi, donc c'était en lycée pro et j'interviens un peu en binôme avec toute l'équipe de veille, c'est-à-dire la psychologue scolaire, la CPE, l'infirmière et les personnels de direction qui ont cette vision de ces élèves pour qui on a besoin de mettre en place un dispositif pour les accompagner de manière un peu plus individuelle, un peu plus personnelle.
C'est très intéressant ce que vous dites parce que, en fait, où vous vous situez dans un établissement d'enseignement professionnel, vous êtes pratiquement à la jointure entre l'adolescence, le milieu scolaire et le milieu professionnel.
C'est exactement ça. Et aussi avec les enseignants. Et avec la famille, c'est-à-dire qu'on est une sorte de pont parce qu'on s'occupe de l'être humain et l'être humain comporte toutes ces facettes-là qui sont satellites autour de lui, qu'il doit apprendre à aussi gérer. C'est-à-dire que si on se met à la place de l'élève, à un moment donné, on se rend compte qu'il reçoit des pressions de partout. Quand il est en lycée professionnel, il va devoir apprendre à être bon en milieu professionnel, qu'il ne connaît pas du tout. Il est très jeune, il a 14, 15 ans quand il arrive. Il va devoir être bon face à ses enseignants et devoir être acteur d'une formation qu'il n'a pas forcément choisie. Il va devoir répondre dès qu'il y a un souci dans son comportement ou dans ses résultats ou qu'il va se mettre un petit peu finalement à décider de plus trop venir parce qu'il se rend compte qu'on le surveille moins qu'au collège. Alors du coup, il va y avoir les chefs d'établissement, les CPE, on va se demander s'il va bien, on va faire intervenir l'infirmière, on va lui faire voir la copsy en disant bah, peut-être il faut se réorienter, peut-être. Et en fait, on ne lui apporte pas un regard sur lui-même, ce que l'art-thérapie peut lui faire. C'est-à-dire que d'un coup, on va lui créer une bulle de plaisir dans son emploi du temps qui le met un peu sous pression, où il va pouvoir reprendre contact juste avec lui-même, où il n'aura pas besoin de parler, il n'aura pas besoin de prendre de grandes décisions, il va juste se faire plaisir, se considérer lui, savoir ce qu'il aime, se reconnecter avec ses sensations, ses propres goûts, et alors il va pouvoir faire des choix qui le concernent vraiment lui, parce qu'il aura été renforcé intérieurement, il aura mis à distance les pressions qu'on lui met, et alors il va pouvoir dire, ben non en fait, je ne veux pas être là, ou ben si finalement, maintenant que j'ai moins d'angoisse, maintenant que je suis moins anxieux, eh ben, je me rends compte que cette formation, il y a des choses qui m'intéressent et que finalement, professionnellement, en milieu professionnel, je trouve qu'il y a des choses qui m'attirent, qui me donnent envie parce que c'est moins scolaire qu'avant. Et finalement, il va, grâce à ça, pouvoir s'engager dans la formation dans laquelle il est ou dans une autre.
D'accord. Alors, vous avez répondu partiellement à la dernière question, puisqu'on va parler maintenant des résultats que vous avez constatés. Alors, je sais que les résultats, en fait, sont flagrants sur les élèves, les collégiens, les lycéens, mais aussi parfois dans leur entourage, dans la famille, après avoir pratiqué l'art-thérapie.
Oui, dans les familles, en fait, l'élève devient beaucoup plus ouvert.
Oui.
Parce qu'il est beaucoup plus solide intérieurement en lui, et du coup il peut, avec cette solidité interne, s'ouvrir aux autres et ne plus être tout le temps en attente de sécurité, de choses pour lui. Il va pouvoir un peu s'ouvrir aux autres, et donc on a des familles qui se rendent compte que il est plus souriant, il se met à communiquer plus facilement, il vient à l'école avec plus de plaisir, donc forcément il est aussi moins tendu, il est plus disponible aux parents, d'un coup il va se passer des choses dans le cercle familial qui va bouger, et ça on va le constater très rapidement. Au bout de quelques séances seulement, quand l'élève revient en séance, il va nous dire « j'ai fait ça avec mes parents, j'ai fait ça avec ma sœur, j'avais plus fait ça depuis longtemps », et il va reconnecter avec sa famille aussi, ce qui va devenir un support. Enfin, son cercle familial va devenir une aide, alors qu'éventuellement jusque-là, c'était une source de tension.
Isabelle Desnoux, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions.
Merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi.
Avant de revenir dans le Loiret, allons interroger Frédéric Thomasson qui se trouve dans l'Académie de Lyon. Bonsoir Frédéric Thomasson.
Bonsoir.
Frédéric Thomasson, vous êtes enseignante d'art plastique et art appliqué. Vous travaillez sur l'institution Saint-Paul et Arago-Sainte-Anne, aussi dans des collèges et lycées professionnels privés sur l'Académie de Lyon. Vous êtes art-thérapeute certifié et formation AFRA-TAPEM, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Alors, dites-moi un petit peu, l'art-thérapie en général, est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir ? Est-ce qu'il y a des projets en cours, en plus de celui dont on parle principalement dans cette interview, ce qui se passe actuellement au Collège de la Forêt à Trénoux ? Est-ce qu'il y a des choses, des projets à venir ? Dites-moi un peu.
Alors, donc, moi je pratique une art-thérapie, l'art-thérapie moderne. Je la pratique en libéral. Dans la Loire, donc à Rouen, également dans le collège que vous venez de citer. J'ai une heure pour cette pratique où je travaille avec des élèves qui sont en Ulysse. Donc là, je vais vous... L'ULIS, en fait, c'est l'unité localisée pour inclusion scolaire. Donc voilà, avec des élèves à besoins spécifiques. Donc déjà, ça, je le sais depuis un an. Et j'ai un projet que je mène avec une collègue qui est enseignante spécialisée, Valérie Vincent, et qui a un chien pédagogique. Et donc, on mène un projet avec des enfants de 4e ECPA. Donc l'ECPA, c'est pareil, c'est un enseignement général et professionnel adapté, donc toujours des jeunes avec des besoins spécifiques, où en fait, voilà, ils réalisent une sculpture, ils la montrent devant un jury en faisant un slam. Donc ce sont des projets où l'art a toute sa place pour justement redonner à ces jeunes l'envie de se dépasser, être fiers d'eux, apprendre à faire et à réussir. Donc ce qui a toute sa place également dans un lieu d'éducation et pédagogie.
Ce sont de beaux projets, ça, hein?
Oui, ce sont des projets passionnants, effectivement, et puis qui sont très positifs pour tout le monde, pour tout le monde dans l'univers du collège. Donc on trouve des enseignants, des surveillants, des élèves évidemment, des parents d'élèves, enfin toute une structure diverse. C'est des projets où, comme on travaille en cohésion avec toutes ces personnes-là, ça touche tout le monde. Et l'art parle à tout le monde, parce que la musique, les arts plastiques, l'écriture, l'éloquence, tout ça, ce sont des points qui font du bien, qui nous sortent un petit peu des fois d'une pratique qui est très réglementée, assez administrative, etc. Et là, on part sur d'autres choses, même si tout ça, bien sûr, est très organisé aussi, parce que donc la formation de la Fratapem m'a permis, moi, d'avoir des clés très spécifiques et une organisation sur la pratique de l'art-thérapie moderne. Donc tout ça est organisé, mais c'est vrai que ça fait une bulle d'air pour beaucoup de personnes, et moi y compris, bien sûr.
Frédéric Thomasson, nous allons maintenant nous appesantir, on va aller un peu plus précisément dans l'art-thérapie en milieu scolaire. Alors, première question, l'art-thérapeute exerce-t-il seul ou en équipe ?
Alors, moi je pratique en équipe, en accord avec toutes les personnes en fait, qui connaissent le jeune, avec qui j'ai pratiqué. L'échange, c'est primordial, échanger sur ses besoins, ses souffrances, ce qui se passe avant de commencer les séances, parce que voilà, faut bien connaître, faut bien savoir ce qui se passe, et ensuite on met en place en fait des objectifs qu'on va essayer d'atteindre, hein. Essayer bien sûr, il n'y a pas de, nous ne sommes pas, voilà, on fait ce qu'on peut évidemment, oui. On va essayer d'atteindre les objectifs pas à pas, petit à petit, et puis surtout avec une logique, surtout voilà, faut s'adapter beaucoup, parce qu'à cet âge tout change très vite. Donc c'est vrai que c'est ce qui aussi est passionnant, parce qu'on s'ennuie pas, mais voilà, faut rester à leur écoute et à l'écoute des gens autour. Voilà, on est une équipe et on travaille ensemble pour le bien du jeune.
D'accord. Alors justement, vous venez parler des objectifs. Les objectifs. Alors comment est-ce qu'on peut avoir un objectif avant d'avoir rencontré ce jeune en souffrance? Et ces objectifs, est-ce que ils sont à géométrie variable, si j'ose dire, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même.
Alors, l'objectif, il est différent à chaque individu. D'accord. Une souffrance, mmh. Un besoin, et là, les objectifs sont variables. Vraiment, c'est vraiment, tout le monde est unique. Donc, tout le temps, on repense complètement son protocole. Ça, c'est en permanence.
Autre question, est-ce qu'un cadre éducatif est le cadre du soin ?
Alors, Vaste question. Alors, ouais, je pense que le cadre éducatif, ça reste le cadre éducatif. Et le soin, c'est le soin. Mais par contre, on peut faciliter la pédagogie avec et grâce aux soins. Et même, même je dirais, dans certains cas, on peut redonner envie d'apprendre ou simplement l'envie de parler, de revenir, la curiosité, grâce aux soins. Donc, moi, j'aime bien parler en fait du soin au service de la pédagogie. Voilà.
D'accord.
Sans mélanger les choses, mais elles s'accompagnent.
D'accord. On parle de projet, bien sûr, de ce projet au Collège de la Forêt à Trénoux. Mais alors, comment on pourrait justifier de l'intégration d'un tel dispositif en milieu scolaire de façon permanente et pérenne, si j'ose dire?
Moi, je pense que on est un certain nombre d'enseignants à penser que les jeunes et parents également, adultes en tout cas, que nos jeunes ne vont pas très bien. On peut le constater. Donc, ils ont besoin de soutien et d'écoute. Et dans cette société, en fait, de sans contact, on peut le dire aujourd'hui. Et les arts offrent cette possibilité de ressentir à nouveau. Et ils peuvent être au service de leurs besoins qui sont insatisfaits. Et cet âge de l'adolescence au collège, qui est un âge assez complexe, et le soin aide, accompagne à traverser ces difficultés.
D'accord. Alors, est-ce que c'est ça qui légitime justement cette pratique, c'est-à-dire, en fait, si j'ai bien compris, c'est la société dans laquelle on vit, avec les hauts, les bas, les bonnes choses, les choses moins bonnes, c'est ça?
Oui, alors, oui, mais ou simplement, en fait, peut-être utiliser aussi ce qu'il y a de positif chez eux, c'est-à-dire que dans notre système éducatif, qui est quand même très bien, enfin, il y a beaucoup de choses extrêmement positives, évidemment, mais souvent, par obligation d'avoir des résultats et des notes, on est souvent dans la punition, la réprimande ou la notation fait que il va y avoir une erreur qui va être sanctionné, entre guillemets, mais qui va être sanctionné. De travailler sur le positif, de travailler sur ce qui va bien, redonne confiance. On va voir les choses différemment. Et je reste persuadée que les points de vue qui sont différents, arriver à changer son point de vue, modifier un petit peu les axes qui sont toujours organisés de la même façon, c'est riche et ça leur permet de se voir différemment. Donc la société, oui, mais après c'est pas le procès de personne, hein, de rien, mais trouver des choses positives pour faire avancer dans le bon sens et voir des jeunes qui vont mieux, je pense que c'est quelque chose de bien. Pour les parents, de toute façon, sont en demande aussi, hein. Après, voilà, c'est pas à chercher qui fait quoi mal. C'est simplement trouver des solutions pour que ça aille mieux. Voilà.
D'accord. Ben, merci Frédéric Thomasson d'avoir répondu à ces questions.
Ben, merci à vous.
Merci.
À vous.
Au revoir. Muriel Bazin enseigne dans le premier cycle depuis plusieurs années. Elle a décidé de se lancer dans les études pour devenir art-thérapeute. Écoutons-la. Muriel Bazin, bonjour.
Bonjour.
Muriel Bazin, vous êtes dans l'enseignement dans le premier degré depuis 20 ans, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de vous former à l'art-thérapie?
Alors, j'ai eu envie de me former à l'art-thérapie pour apporter, parce que je pense que l'art-thérapie peut apporter une aide plus spécifique et plus ciblée aux enfants en difficulté à l'école.
Mmh. Ce qui veut dire que vous avez vu, vous êtes consciente d'avoir croisé des enfants en difficulté et être un peu impuissant jusqu'à présent.
C'est ça, par rapport effectivement au nombre d'enfants dans la classe, par rapport à nos compétences qui sont par rapport aux enfants en difficulté, qui ne sont pas forcément poussées, voilà, d'accord, en tant qu'enseignante.
D'accord. Alors justement, au niveau de cette formation, vous en êtes où actuellement ?
Donc là, j'ai la certification en art-thérapie depuis un an et je termine par un diplôme universitaire en art-thérapie à la faculté de médecine de Tours.
D'accord. Ce qui va vous permettre par la suite d'exercer en milieu scolaire.
Oui, notamment. Oui.
D'accord. Alors, deuxième question, si vous voulez bien. Alors, d'après vous, en milieu scolaire, à quel endroit se pratique l'art-thérapie ? Est-ce qu'il y a des endroits précis dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges ? Comment ça se passe, d'après vous ?
Alors, en termes de niveau scolaire, l'art-thérapie peut se pratiquer à tout niveau, que ce soit dans le primaire ou le secondaire. Ensuite, ça peut se... Enfin, voilà, étant donné que je suis enseignante en primaire et surtout dans les petites classes, par rapport à mon expérience, je pense que l'art-thérapie peut s'exercer en dehors de la classe, en petits groupes avec les plus petits. Et puis... aussi au sein de la classe, en fonction des objectifs qui sont visés, et notamment, je pense, aux objectifs du vivre ensemble qui sont importants en maternelle et qui peuvent être, du coup, travaillés par le biais de l'art-thérapie au sein de la classe.
Vous venez de répondre partiellement à une question, puisque j'allais vous parler des objectifs. Dans les établissements où vous enseignez actuellement, est-ce que l'art-thérapie est déjà en place ? Est-ce qu'on a déjà fixé des objectifs ?
Alors, l'art-thérapie n'est pas en place dans les établissements dans lesquels j'ai enseigné jusque-là. Par contre, c'est vrai qu'en se basant sur les programmes de l'éducation nationale, on peut s'appuyer dessus et croiser et comprendre que l'art-thérapie a toute sa place pour soutenir ces programmes et puis l'éducation en milieu scolaire, notamment en maternelle. Donc l'un des points importants, c'est il y a le langage, voilà, qui peut être travaillé par le biais de l'art-thérapie. Il y a également aussi le vivre ensemble, qui est un point fort des apprentissages jusqu'à la fin de l'année de grande section et même au-delà. Et c'est vrai que je crois que l'art-thérapie a toute sa place pour appuyer les équipes enseignantes pour les enfants qui auraient du mal en structure et en apprentissage classique, qui auraient du mal à intégrer toutes ces notions-là.
Justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'un art-thérapeute, est-ce qu'il exerce, tout seul ou est-ce qu'il est en équipe ?
Alors, en termes des séances, les séances en elles-mêmes se font uniquement avec l'art-thérapeute, mais par contre, il ne peut travailler sans l'équipe pédagogique et même un peu au-delà de l'école, quoi. Voilà, il faut l'appui des enseignants, il faut la connaissance de l'enfant aussi par l'enseignant et l'œil pédagogique qui est important, enfin voilà, pour pouvoir mener à bien le protocole d'art-thérapie. Et puis les autres personnes, donc là, je pense à l'ATSEM, par exemple, à l'école maternelle, aux services civiques qui peuvent intervenir dans les écoles et qui appréhendent l'enfant d'une autre manière que purement pédagogique, mais qui peuvent avoir des observations pertinentes et importantes pour mener à bien une stratégie art-thérapeutique efficace.
D'accord. Les dernières questions qui n'étaient pas prévues. Est-ce que vous pensez que vos 20 ans d'expérience peuvent servir justement dans la pratique de l'art-thérapie ?
Oui, parce que notamment par la connaissance des attendus de l'école, que ce soit la connaissance des programmes et puis également la connaissance du fonctionnement, je vais dire, de l'école et de ses évolutions. Donc je pense que la double casquette ne peut que servir pour apporter des séances, des protocoles d'art-thérapie qui soient le plus ciblés possible et le mieux, le plus juste, quoi. Voilà.
D'accord. Ben merci Muriel Bazin d'avoir répondu à ces questions et puis bonne continuation pour votre formation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.